Radio, radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur achat. En partenariat avec le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises à nous écouter chaque semaine un podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter CPO Radio-TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Laurent Chartres, directeur d'EPSA, opération et procurement, et puis Gilles Navarro, rédacteur en chef adjoint de CPO Radio.tv. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Gilles, est-ce que le bien-être est strictement réservé aux femmes selon vous?
Voilà une question que l'on peut poser à Stéphane Fostenlebach, directeur des achats de la supply chain de Naos. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Centrale puis HEC Paris, quelle était votre ambition en suivant ces études?
Justement, de poursuivre dans les achats, de me perfectionner. Et de...
Depuis le début?
Non, pas depuis le début, parce qu'en fait, j'ai démarré ma carrière chez Renault, au contrôle de gestion. Donc j'étais parti dans les chiffres, j'ai toujours aimé les chiffres, dans la gestion, l'analytique, donc une bonne école structurante. Mais je ne me voyais pas dans un bureau toute la journée, sans communication, sans relation extérieure avec les fournisseurs notamment, ou les clients.
Et avant Renault, une première expérience aux fonderies du Poitou.
C'est ça, c'est Renault.
C'est Renault,
en fait, c'était l'usine qui fabriquait les carters et les culasses moteurs.
Les carters et les culasses moteurs, très bien. Vous l'avez dans l'industrie lourde, ça reste un bon souvenir?
Oui, tout à fait, très structurant. L'école Renault, c'est l'école de la rigueur.
Et basé dans le Poitou, Stéphane, alors?
Poitou-Charentes, tout à fait.
Alors, c'est comment le Poitou? Je sais pas, moi, un 3 février, il y a grosse ambiance, un peu comme Ibiza, quoi, mais version Poitou, quoi.
Exactement. C'est pour ça que je suis à Aix-en-Provence aujourd'hui.
Voilà. Gilles.
Vous démarrez dans le monde des achats chez Léa Nature, hein, qui est une entreprise de produits naturels et biologiques et basée à La Rochelle, je crois, dans la région de La Rochelle.
Tout à fait.
Comment s'est déroulé ce cheminement?
En fait, justement, après Renault, j'ai voulu aller dans le monde de la start-up, l'agilité, vraiment le dynamisme. Et puis cette start-up basée à La Rochelle, j'ai eu la chance de pouvoir choisir à chaque fois mes lieux de travail et de vie. C'est une belle aventure. Vraiment, l'ADN de cette société correspondait à la mienne. Vraiment, le développement durable, la RSE, le bien-être du personnel. Vraiment, j'ai eu un très très bon souvenir. Charles Kloboukov, qui est le fondateur, c'est devenu un ami maintenant. Vraiment une belle expérience de cette société. Très belle personne, très belle société.
Alors chez Léa Nature, le monde de la cosmétique vous ouvre des perspectives que vous confortez en rejoignant le département des achats du groupe Naos. C'était une suite logique dans votre progression professionnelle.
Tout à fait. En fait, je ne suis pas parti du groupe Léa Nature pour les valeurs. Au contraire, j'adhérais à ces valeurs. C'est que je trouvais le secteur commercial, qui est la GMS, trop restrictif. Je voulais vraiment m'évader sur une filière à plus grande valeur ajoutée. Et en effet, la nature, j'étais sur la santé, l'alimentaire et la cosmétique. Et la voie de la cosmétique, quand même, les sirènes de la cosmétique m'ont attiré dans le sud, où le groupe Naos possède trois marques fortes, Bioderma, cosmétique dermatologique, Institut Estéderm, une marque premium en dermatologie aussi, et Etapur.
Peut-être préciser que le groupe Naos est basé à Aix-en-Provence.
Aix-en-Provence, 3000 personnes, en effet, et 600 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Uniquement français ou il y a également une résonance internationale?
Alors, une résonance internationale, puisqu'on a, l'ambition toujours de capter toujours plus de pays. Nous sommes rendus à 45 filiales et nous ouvrons 2 filiales par an.
Pas mal, beau rythme. Vous en pensez quoi, Laurent?
C'est une sacrée cadence, effectivement, pour démarrer. Mais de la même façon, aujourd'hui, vos produits sont basés sur l'éco-responsabilité et l'innovation. Comment justement est impliqué le département achat sur ces sujets-là, sur ces objectifs-là? Et de la même façon, quels sont finalement les résultats attendus et les moyens de les mesurer?
Alors en fait, le service achat contribue à l'ADN de la société en réduisant les filières, en travaillant avec des filières courtes. Donc en fait, je peux dire que plus de 90% de nos achats sont européens et plus de 70% sont français. Donc, quelque part, une...
Cocorico.
Voilà. Donc, les filières courtes, c'est aussi développement durable. Quelque part, travailler avec l'écosystème national, c'est bien. Aller chercher quand même des sources innovantes, même si elles sont à l'étranger, c'est bien aussi. Le principe, c'est basé sur l'écobiologie. L'écobiologie, c'est pas forcément l'écologie. Ça va de pair, mais l'écobiologie, c'est quelque part, la peau est un écosystème qui évolue dans son milieu naturel, qui est c'est la pollution, c'est tout ça. Il faut traiter quelque part en profondeur sans trop de couches, sans trop exagérer sur les actifs. Donc c'est le juste nécessaire pour le bien-être de la peau.
Vous parlez justement de favoriser le Made in France. Alors j'imagine que c'est un label qui est compliqué à maintenir de la même façon, puisqu'il va falloir avoir une activité de sourcing importante.
Oui.
Comment est-ce que justement vous amenez vos acheteurs à aller rechercher les pépites françaises, voire limitrophes?
Alors ça se fait assez naturellement parce que quelque part, le service achat, les personnes que je recrute sont dans le même courant. Après, nous sommes quand même dans le monde aussi de la chimie. En tant que cosméticien. Et la chimie, les matières premières sont situées quand même dans l'est de la France, le nord de la France ou vers l'Allemagne. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Après, c'est le développement, au contraire, de notre relation de management fournisseur qui fait qu'on va capter l'innovation auprès de ces fournisseurs. Mieux on est avec nos partenaires, plus on capte l'innovation auprès d'eux.
De la même façon, dans le cadre, vous avez évoqué à un moment donné la partie gestion des catégories C, oui. Donc vous avez un groupement aujourd'hui avec d'autres structures de la même activité que vous. Ma question est double en fait, aujourd'hui est-ce que c'est quelque chose que vous voyez évoluer de façon pérenne ou bien est-ce que c'est, je dirais, la gestion des catégories C est quelque chose qui t'a amené à dériver vers le digital et peut-être vers des marketplaces?
Alors, ce n'est pas incompatible. L'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Au contraire, en fait, si j'ai créé un groupement d'acheteurs, il y a déjà 13 ans, s'il existe encore, c'est qu'il a son utilité. Quand je l'ai créé, c'est tout simplement pour sortir un peu les acheteurs de leur autarcie. Tout le monde...
Combien d'acheteurs au total dans le groupement ?
Maintenant, nous sommes 280 acheteurs.
Ah, c'est important.
Mais je compte bien capter les 800 adhérents du COSMED. En fait, le COSMED, c'est une association des cosméticiens de France. Et chaque société, surtout des PME, taille moyenne, ont les mêmes problématiques que nous. Hein. Quand on est seul face à un marché, c'est long à sourcer, c'est difficile à qualifier et plus compliqué à acheter, sachant que chacun se focalise sur les achats stratégiques dans son entreprise. Donc, l'idée, je me suis rapproché du COSMED et au conseil d'administration, j'ai proposé de monter un groupement d'acheteurs, d'y passer du temps tous les mois comme leader et petit à petit former d'autres acheteurs. Et au bout d'un moment, chacun apporte ses meilleures sources. Au bout d'un moment, quand on a des bons fournisseurs, autant les partager entre nous, sachant qu'on est sur des achats non stratégiques. Là encore, les achats stratégiques, on se les protège, on se les garde, mais ce qui n'est pas stratégique, du film étirable, des palettes...
Oui, c'est ça, on peut les discuter, les bonnes paquets,
on a tout intérêt à les acheter ensemble.
Et tout type de métier présenté au sein du groupement, alors ?
Oui, bien et service, en effet.
Oui, bien et service.
Ça va jusqu'aux avocats, tout le reste. Mais ça se digitalise, pour répondre à votre question, ça se digitalise, parce qu'en effet, la digitalisation, c'est quelque part... faciliter la gestion humaine. Tout ce qui est rébarbatif, récurrent, ça se digitalise.
Et vous passez beaucoup de temps, Stéphane, à rechercher, à rencontrer des nouveaux fournisseurs, c'est ceux qui les pépites de demain, ou alors à donner leur chance à des petites boîtes?
Alors, j'ai un service achat qui est quand même sur le terrain, mais j'y passe aussi du temps, pas forcément que sur les achats cadres. Tout type de fournisseur, en effet, dès lors que ça peut être une innovation, dès lors que ça rentre dans notre ADN, notre courant d'affaires, qu'on fait du développement durable avec eux, j'aime
pourquoi
les rencontrer.
Pas, vous dites pourquoi pas?
J'aime les rencontrer parce qu'en fait, ils m'inspirent. En fait, l'idée, c'est on apprend nos partenaires, nos fournisseurs. Il ne faut pas arriver en s'imposant vis-à-vis d'eux. Quelque part, je suis convaincu que demain, le marché va s'inverser. Si on veut avoir les meilleurs produits, les meilleurs services, il faudra avoir les meilleurs fournisseurs. Et c'est eux qui choisiront leurs acheteurs. Ils choisiront les sociétés qui sont les plus bienveillantes avec eux. Donc, bien sûr, il y a l'aspect économique qui est toujours de rigueur, mais les bénéfices se partagent.
Oui, et puis avoir une vision un petit peu à moyen, voire à long terme. Quoi. Alors, le plus beau métier du monde, c'est quoi? C'est directeur des achats ou pilote de chasse? Attention, il y a une seule réponse, hein, Stéphane.
Si j'avais choisi un métier de rêve, j'aurais préféré être acteur. J'ai toujours aimé...
Mais quoi, dans un polar, d'un policier, des films romantiques, tout quoi.
Un bon acteur doit s'adapter à tout. Ouais. Mais bon, si ça avait été un métier de rêve. Mais après, le métier qui me passionne reste les achats. Les achats, c'est ouvert sur le monde... extérieur.
Et le sport, c'est important dans votre vie? Vous pratiquez beaucoup de sports, lesquels?
Oui, en fait, c'est un équilibre. Alors, je fais du sport en salle. Le week-end, je vais faire du running dans les collines.
Dans la garrigue.
Exactement.
Où votre temps allait.
Voilà, exactement. Et dans le passé, j'ai fait des arts martiaux, du kwan-kido. Je vais peut-être m'y remettre pour accompagner mon fiston qui en fait maintenant, histoire de partager.
Donc, des hyper choses. Sportif, on va le dire, Stéphane.
J'aime bien ça.
Bon, si on a un problème pour restaurer sa maison ou une vieille 4 chevaux Renault, est-ce que vous pouvez nous aider ou pas?
Alors, vous aider, déjà, il faut que je finisse ce que j'ai commencé. Oui, je suis passionné par redonner vie à de vieilles choses. La 4 chevaux, c'était emblématique de la France. C'était les congés payés. J'en ai restauré une, j'avais pas encore le permis. Quand j'ai eu le permis, je voulais plus rouler avec pour pas l'abîmer. Après, j'ai restauré une 250 Tero SSD, une moto. Et en effet, ma maison, il y a quelques années, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'ai fait tout ce que je voulais dedans.
Et le centralien également manuel. Ce n'est pas le cas de tous les centraliens. Quoi. Ouais, et pour terminer, dernier livre lu, Stéphane, qu'est-ce que vous avez lu comme bonne lecture à nous conseiller?
Alors plusieurs. Si c'est un document société, c'était Surfer sur une société fluide de Joël de Ronet, qui donne une bonne idée justement de la NetGen, la NetGénération, quelque part les milléniums. On va travailler avec eux, ce seront eux nos consommateurs de demain, donc autant bien s'adapter à eux, c'est nous qui allons nous adapter à eux et pas l'inverse. Et sinon, j'aime bien les romans policiers de Steve Berry, par exemple.
Et le dernier qui a été lu
De Steve Berry, Le secret des Templiers.
Pour le conseiller, 18/20.
Ouais, j'adore, c'est comme Dan Brown, c'est dans le même...
Ouais. Même quand peine. On commence, on veut terminer. Quoi,
ouais, c'est ça. Ouais, c'est
merci beaucoup Stéphane, ne changez pas, vous êtes parfait. Hein. Merci également Laurent et Gilles, vous êtes très bien aussi tous les deux. Fin de ce numéro de cporadio.tv, retrouvez tout le podcast sur le site cporadio.tv, suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
cporadio.tv vous a été présenté par Alain Marty.